Bonjour. Spectaculaire commence aujourd'hui, ce mercredi 26 février 2014. Et c'est la 26e émission aujourd'hui, une 26e émission très particulière qui commence un poil en retard. Il est un peu plus de 14h à la pendule de Radio Canut. Il doit être 14h03, même peut-être 14h04. C'est pas possible, quel retard. Il ne faudra pas lâcher trop tard le micro pour que Pascal puisse bien enchaîner avec le blues des Canuts. Aujourd'hui, Gérald est en notre compagnie, ainsi que Laurence Loutre-Barbier, et puis même un invité mystère. Qui sont-ils tous? Ils se présenteront pendant cette émission. Il y aura même en fin d'émission Emmanuel, chroniqueur opéra, qui a déjà vu le dialogue des Carmélites en octobre dernier et qui a vu très récemment, hier même, le conte Horry de Rossini qui est donné à l'Opéra de Lyon. Il viendra faire un compte rendu en deuxième partie d'émission, en fin d'émission, et voilà. La playlist, la programmation musicale est assurée comme d'habitude par Gérald, et nous allons d'ailleurs commencer avec un premier titre. Il s'agit de... Je ne sais même pas. Surprise de Gérald, il va annoncer ce que c'est. C'est Giovanetti ou je ne sais plus comment, de l'italien. Voilà, nous commençons comme cela et puis nous poursuivons et puis voilà tout. Générique de démission qui continue et puis ensuite Laurence à la parole, Gérald, tout le monde et moi je parlerai très peu. Vous allez voir, ça commence tout de suite d'ailleurs.
Come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Tu che credevi che oramai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po' ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
Alors, il m'a semblé que ça commençait avec un orage, ce titre.
Oui.
Ouais, Pio Gérald. Vrai.
Alors je peux pas traduire les paroles, c'était Giovanotti et non pas Giovanetti.
Oui oui, non j'ai...
Et on se trompe souvent sur les consonances. Voilà, Giovanotti Piove, c'était un beau morceau entraînant et il pleut aujourd'hui, je voulais le passer pour commencer puisqu'on va parler de choses peut-être pas forcément gay ou drôle, je sais pas encore, on va voir.
C'est à voir. C'était donc un premier instant, introduction musicale pour recevoir aujourd'hui Laurence Loutre-Barbier, dont on va aujourd'hui tirer le portrait. C'est un peu le sens des dernières émissions que nous faisons dans l'émission spectaculaire. On parle peut-être moins de spectacles qui sont donnés actuellement, plutôt que nous essayons de brosser les portraits de diverses personnes. Catherine Henry il y a 2 semaines. La semaine dernière, c'était
Catherine Marie.
C'est Catherine Marie, Christophe Guilbault la semaine dernière, et puis à la rentrée en mars, on va peut-être plus revenir sur des spectacles, la biennale d'art contemporain, mais biennale musique en scène nous sera présentée par Damien Pousset qui vient de Grammes pour nous indiquer différentes choses. Mais aujourd'hui, brossons, tirons le portrait de Laurence Loutre-Barbier. Je ne sais pas, Gérald, je te laisse à l'interview. Et puis Jean-Pierre donc est avec nous aussi pour éventuellement dire deux, trois mots.
Bon, elle va se présenter elle-même, je pense que.
C'est une très grande fille, oui.
Ce qui est de mieux. Mais moi, je connais Laurence, je l'ai rencontrée comme plasticienne. D'abord, la première fois, j'avais une expo sur son travail dans une excellente librairie lyonnaise. Au bal des Ardents, elle avait fait une très belle expo. On avait discuté, j'avais parlé avec elle de ses œuvres, et voilà. Après, on s'est revus, on s'est croisés ailleurs. Et après, j'ai lu un de ses livres qui m'a beaucoup plu.
Alors, laissons-lui la parole.
Dans la main.
Quel est ce livre ?
Photos, elle a fait aussi des belles photos que je connais.
Quel est ce livre ? Quel est son
titre ? Qui est à la Galerie Loujopo, dont on avait parlé dans une émission, d'ailleurs.
Allez, Gérald, faisons un effort. Nous laissons la parole à notre invité. Quel est ce livre et qui êtes-vous donc, Laurence ?
Bonjour. Donc, en effet, je m'appelle Laurence Loutre-Barbier. La première chose à dire, c'est que je suis éditrice. Donc, je fais des livres pour des musées, éditrice à Phage Édition, donc qui est une maison d'édition créée depuis une dizaine d'années. Donc, voilà pour cette activité qui est essentielle aussi pour moi. Donc, passer du métier d'éditrice à celui d'auteur, ça n'a pas vraiment grand sens d'en parler. Mais en tout cas, voilà, il y a en effet eu à un moment donné la production d'un livre qui s'appelle La Dernière Chambre. Et je suppose que c'était ça dont on devait parler, qui n'était pas forcément très gai. Voilà.
Ah ouais, d'accord, l'émission complètement préparée, je suppose que c'est de cela que nous devions parler. N'importe, non, vraiment, j'insiste, cela est en revanche totalement préparé et totalement, comment dire, conscient. Nous proposons donc dans l'émission spectaculaire sur Radio Canut, tous les mercredis à 14h.
Multiples voilà. Facettes, donc on peut parler de plein d'autres choses.
Nous nous proposons, on avait commencé d'ailleurs comme ça en octobre dernier, quand nous avons repris, avec notre figure pour le blog Francis, les chroniques de Francis. De Coninck. Et donc aujourd'hui, un autre personnage à multiples facettes, Laurence. Alors je ne sais pas quel mot dire davantage sur cette activité d'éditrice ou bien votre. J'ai cru comprendre que Loujopo avait été également un lieu où vous étiez rendu, et donc plasticienne, a dit Gérald tout à l'heure.
Bon, donc. Du coup, oui. Alors, il y a en effet l'écriture qui m'anime et la photographie. Donc, la galerie Loujopo, qui est un lieu lyonnais, m'a accueilli pour faire une exposition relativement récemment l'année dernière, en fait, qui s'appelait Les Espaces Inquiets. Voilà. Donc, c'est difficile pour moi de parler d'emblée des productions parce que les productions sont plutôt la conséquence d'une démarche, en fait, et d'une démarche qui n'est pas forcément artistique. Donc, la démarche, c'est que j'essaye le plus possible d'être connectée à ce que je pense et ce que je trouve être vivant, en fait. Donc, il s'avère que je me promène dans la vie et puis au gré des rencontres, la nécessité se fait sentir ou pas d'écrire ou pas de photographier, en fait. Donc, voilà. Là, par ailleurs, j'ai envie de citer un auteur, alors, parce que je reconnecte dans ma tête entre ce métier d'éditeur et puis l'écriture et ma façon d'être à la vie, en fait, c'est qu'on a édité il y a un petit peu de temps un auteur qui s'appelle John Berger, qui est quelqu'un qui a une démarche dont il a pu parler, et c'est cette phrase que j'ai envie de lire, qui est « J'essaye simplement de me situer le plus au centre possible, je veux dire au centre de l'expérience humaine. » De nos jours, le centre de cette expérience, ce sont les marginaux. Marginaux qui, paradoxalement, sont les plus nombreux sur cette planète. Les sans-pouvoir comprennent les choses de la vie, quand ceux qui détiennent le pouvoir n'ont aucune idée de ce qu'est véritablement l'existence. Alors, c'est un constat, en effet, pour moi, de me situer, en tout cas dans ma vie, dans des zones de marge. Voilà pourquoi il m'était important de citer cette phrase de John Berger. Alors l'autre chose, c'est que voilà, j'avance, je fais des choses et après il se passe des photos ou des textes. Bon, donc voilà.
Qui est ce John Berger ? Ça ne me dit rien. C'est une figure de la littérature, la sociologie contemporaine ou
C'est une figure de la littérature, en fait. Engagée.
Altermondialiste, non ?
Altermondialisme aussi, il a été connecté. Alors, autre chose qui me tient à cœur en ce moment, c'est le mouvement zapatiste. Et puis, voilà, donc c'est vrai que John Berger a été aussi en correspondance avec le sous-commandant insurgé Marcos. Mais donc, en effet, altermondialiste. Mais sinon, c'est un auteur de littérature qui a une grosse production. Voilà, il habite pas très loin de Lyon, en Savoie.
Peut-être qu'on y reviendra la question zapatiste.
D'accord.
C'est l'invité qui décide de ce dont
avec
il veut
plaisir,
parler.
Ceci, ouais.
Peut-être il y a toujours une question facile à poser quand nous recevons ces différentes personnes dont nous avons tenté d'établir des portraits. Leur parcours, hein, par où sont-ils passés? Alors peut-être pas le CP ni le CM1 parce que c'est peut-être pas très, très riche. Étiez-vous bon en EPS à l'époque ou en gymnastique? Bon, très bien, passons les bulletins également des conseils de classe de la fin de 3e.
Les titres et diplômes.
Oui, voilà, c'est ça, oui. Hein, le CV, c'est-à-dire une.
Concernant, j'ai déjà post-bac. Bégayé. À ce niveau-là, parce que j'ai déjà passé 2 bacs, ne sachant pas quoi faire.
Ah, c'est pas mal.
Un scientifique, un littéraire, un humaniste.
C'est pas le même. C'était une première curiosité. C'est que faire avec 2 bacs, rien de plus qu'avec 1, soyez rassurés, voire rien de plus qu'avec aucun. Donc du coup, voilà. Bon, mon parcours est finalement assez simple. Universitaire, maîtrise à la faculté, après 2 années de prépa à l'école normale sup en sciences économie gestion.
À Lyon.
Lyon 2 et la Martinière-Thérault. Donc j'étais plutôt dans une orientation sciences économiques et précédent, plutôt mathématiques et physiques en fait.
Normal sup, c'était normal sup sciences.
Sciences économiques.
Encore une scientifique.
Sciences économiques.
Après. Ben, en fait, ouais, c'était un parcours tracé parce que j'étais bonne en mathématiques et en sciences physiques et en sciences naturelles. Donc du coup, voilà. Cela dit, après, on marche dans les traces de l'autonomie. Donc, pour marcher dans les traces de l'autonomie, on fait des boulots, des petits boulots. Donc, là, c'est pareil. J'ai aussi dans différentes traces. J'ai été aussi bien institutrice dans une école privée juive parce que le hasard m'a conduit là-bas que agent à la caisse d'allocation familiale des salariés agricoles, par exemple, ou pompiste.
À Lyon ou en région,
tout
ça.
Tout à fait à Lyon.
Ah ben, très bien. Ah oui, Gérald, tout tu disais beaucoup de facettes. Ah oui, vraiment. Que de cordes à son arc.
Après quoi, me voilà manageant des groupes de rock et puis passant par hasard à l'école des Beaux-Arts de Lyon et rencontrant la porte entrouverte d'une maison d'édition qui était l'antenne éditoriale de la Réunion des musées nationaux. C'était dans 94.
RMN,
voilà, RMN. Donc j'ai frappé à la porte et j'ai dit, c'est chouette, faisons des livres. Et l'accueil a été très chaleureux et il était évident que c'était ce que je devais faire. Mmh. Et finalement, le parcours, en ce qui me concerne, est toujours lié à des choses du hasard, mais connectées à une réalité un peu différente. Donc j'avais une connexion de... D'abord, je lisais beaucoup. Et j'étais connectée à une femme dont j'ai envie de parler là parce que ça me vient à la tête et parce qu'on parle du parcours qui est la Dame d'Izieux en fait, donc Sabine Zlatin. Sabine Zlatin était la responsable d'une colonie d'enfants juifs pendant les années de guerre. Et ses enfants ont été déportés. 44 de ses enfants ont été déportés avec son mari, qui s'appelait Miron Zlatin, ont été gazés. Et en fait, cette déportation de ses enfants à la colonie d'Izieux, en fait, a permis de juger Klaus Barbie comme étant criminel contre l'humanité, non pas pour crime de guerre. Tout ça pour rebondir que cette femme, après la guerre, était peintre et éditrice en chambre. Et la première connexion que j'ai eue avec l'édition dans ma vie, c'était enfant, c'était avec cette femme. D'accord. Et l'évidence s'est faite pour l'édition, pour moi, voilà.
On peut l'avoir témoigné au CHRD, à la prison Montluc. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça.
Voilà, ouais.
Je ne savais pas qu'elle était peintre et que tu la connaissais, qu'elle t'avait marqué.
Elle m'a marqué, oui, je l'ai connue toute sa vie, donc, enfin toute la mienne en tout cas, plutôt que toute la sienne qui a été plus longue. Bon, voilà pour l'édition et puis pour ma formation. Donc, vous voyez, en fait, j'ai pas de formation de littérature, ni d'histoire de l'art, ni de photographie, en fait. Donc, voilà.
Ah, mais attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Ce sont des questions très ouvertes que nous posons.
Voilà, c'est un fait, en fait. C'est vraiment un fait. Ouais.
Gérald, serait-il temps d'entendre, d'écouter dans l'album Fiction, c'est intéressant, Fiction au pluriel, plusieurs histoires, plusieurs choses, serait-il temps d'entendre Images fantômes, Pavane pour une infante défunte, cet album Fiction est de Jane Birkin. Qu'est-ce que c'est écrit? Ah, c'est un album live, 20 mars 2006 à Paris.
Et le texte est écrit par Hervé Guibert dans L'Image fantôme. C'est un extrait de L'Image fantôme, un ouvrage sur la photographie.
Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. Ta photo est tellement là, depuis si longtemps, que j'oublie toujours que tu es resté là. Image fantôme vole, toujours plus étrangement, pour caresser mes pieds ou faire un peigne à mes cheveux. Ta photo sur la bibliothèque.
Oui, Gérald, nous avons entendu le texte d'Hervé Guibert et on n'a pas dit que la musique était de Maurice Ravel puisque c'était Pavane pour une infante défunte. Nous sommes de retour en studio, toujours avec nos invités, à savoir, il y a même un autre joyeux luron qui nous a rejoint, il s'agit d'Emmanuel pour la chronique en fin d'émission, chronique opéra. Notre chroniqueur spécial musique classique est allé voir le conte Ori de Rossini qui est donné à l'opéra ces jours-ci et j'ai cru comprendre que c'était un beau personnage, ce conte Ori. Laurence, nous sommes toujours en votre compagnie. Nous entendrons après avoir écouté à l'instant Jane Birkin. Tout à l'heure, ce sera Catherine Ringer. Et nous reprenons donc le portrait de notre invité. Vous étiez en train de vous dire des choses.
Non, je disais juste que le choix de Gérald par rapport au texte d'Hervé Guibert dit par Jane Birkin me plaisait. Et je rebondissais à nouveau sur une citation, parce que je vais truffer de citations, puisque c'est ce qui m'éteille finalement. Et une de Chris Marker concernant la photographie qui disait que la photo, c'est la chasse, c'est l'instant de chasse sans l'envie de tuer, c'est la chasse des anges. On traque, on vise, on tire et claque, au lieu d'un mort, on fait un éternel. En fait, voilà, donc je vais juste dire ça.
C'est beau, hein, comme citation.
Comment reprendre le fil? Donc, peut-être davantage cette activité d'éditrice? Non, une remarque.
Moi, bon, j'ai envie de lire et j'ai demandé l'autorisation à notre invité de lire la quatrième donc, de cet ouvrage.
Alors,
le
quel ouvrage?
Le premier essai de Laurence Cloutre-Barbier. La dernière chambre, Laurence Cloutre-Barbier, édition Phage.
Qui est éditeur déjà chez Phage?
Moi.
Voilà, c'est ça. Bonne réponse. Là, effectivement, cela a
plu. Je milite pour l'autonomie.
Très bien. Et donc, Gérald, une lecture, la quatrième couverture. L'Inkipit, non, la dernière. Très bien.
Ah oui, c'est la dernière.
Oui, c'est ça, la quatrième. C'est là.
Ouais, en général.
Le dos du bouquin.
Ouais. La présence de la mort est l'absence. Il y a cependant un lieu interdit où la rencontre impossible est autorisée. Ce lieu est associé à un moment où les vivants et les morts se retrouvent ensemble, où la mort existe dans un quant à soi bien réel et dans une extrême proximité à la vie. Ce lieu, lieu limite de la vie, est intolérable aux vivants, bien que ce soit là, préparant dans la confusion et la douleur l'inhumation, qu'ils bâtissent leur propre humanité. Ce lieu est protégé et à ce point reculé dans notre conscience qu'on en a presque oublié son existence. Ce lieu escamoté, c'est la chambre mortuaire, la dernière chambre.
Et oui, c'est un fait.
Qui l'a rédigé cette quatrième de couverture ?
Ah ben moi.
Ah, d'accord.
Bon.
Elle donne le ton de l'ouvrage.
Ouais, merci de me remettre ça en tête. En fait, donc, ce livre est issu d'une aventure humaine grave pour moi, qui s'est passée il y a à peu près peut-être 4 ans de ça, ou 5 ans maintenant, finalement, le temps m'échappe aussi, liée à une question qui me tarabustait, toujours par rapport à ces histoires de marge et de comment se situer de façon. Être soit centré et se retrouver dans des zones de marge. Et cette zone de marge, je la trouvais à nouveau avec la question des morts qui m'ont semblé être les premiers parias auxquels je pensais. C'est-à-dire que ces gens-là, ces morts-là, je ne savais pas où les voir, en tout cas en France, là où j'habitais. Donc disparition des cérémonies, disparition d'un certain nombre de choses, d'évacuation des cimetières en périphérie urbaine, de la même façon que les terrains de Rome, les hôpitaux psychiatriques, les prisons, etc., les hôpitaux tout court d'ailleurs. Donc finalement, les questions me traversaient par rapport à la mort, mais d'une façon quand même relativement vivante, parce que cette question, je pense, me préoccupait du tout, mais en tout cas me traversait la tête d'une façon assez normale, je dois dire, et assez vivante. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui se passe soudain si mon corps s'inanime, moi n'étant pas spécialement religieuse ni rien, je me disais, tiens, qui se saisit de l'affaire à ce moment-là ? Et c'était un peu doublé par une autre question très vivace qui était qu'au moment de donner naissance, comme toute femme ou comme l'essentiel des femmes, en fait, j'ai levé le doigt vers l'hôpital en disant « Waouh, je suis enceinte, vous ne pouvez pas vous occuper de moi ». Donc grosso modo, j'ai délégué cette affaire qui était la naissance à l'institut hospitalier, en fait, et voilà. Bon, et je me suis dit que finalement, au terme de ma vie, si l'énergie, la santé et puis la chance m'étaient données, j'allais encore prendre mon téléphone en disant waouh, ça va pas trop, en fait, je suis en train de mourir, est-ce que vous pouvez me prendre en charge ? Et je trouvais que ces deux moments essentiels de la vie, finalement, on s'en dessaisissait et puis on se laissait déposséder de ça, alors que finalement, il y a quelque chose qui est très fort et très puissant, en fait, à les gérer de cette façon-là. Bon, cela dit, je me suis dit, très bien, les morts, finalement, pour les voir, il suffit que j'aille à l'hôpital. Bon, je vous passe les détails de l'affaire, mais je suis allée frapper à la porte d'une chambre mortuaire à Lyon, et puis d'une autre à Paris, et qui m'a ouvert ses portes, et j'ai été accueillie par une soignante absolument épatante, qui s'est tout simplement réjouie qu'une personne de la vie normale vienne frapper à sa porte, c'est-à-dire de la vie normale qui n'était ni journaliste, ni qui n'accompagnait un défunt, ni morte. J'étais super vivante, en fait. Et ma question était de savoir qu'est-ce qui se passait dans ce lieu et voilà, qu'elle me raconte, elle, dans cet univers. Bon, on a fait une demande à la direction et finalement, je suis allée travailler là-bas une semaine par mois pendant quasiment 2 ans, en fait. Donc, elle m'a passé une blouse et puis et j'ai soigné les morts avec elle. Mais j'avais pas du tout l'intention ni d'écrire ni de photographier. En fait, c'était une connexion citoyenne finalement, et puis voilà, c'était comme ça. J'avais pas l'intention d'écrire ni de faire un livre à ce moment-là. Donc, je faisais le travail qui était logique de faire, c'est-à-dire soigner des gens morts et soigner des gens vivants, c'est-à-dire les vivants qui venaient voir le mort, et puis soigner le mort des vivants qui allaient venir le voir.
Il y a une phrase dedans là-dessus, c'est sur cette inversion là, oui. Entre les morts et les vivants, que j'avais noté, qui est très belle. Ouais.
Bah, c'est un lieu très, très ambivalent, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des morts, des vivants, et puis c'est un lieu qui est composé d'une zone interdite au public et d'une zone autorisée au public. Ces soignants oscillent sans arrêt entre ces deux zones. C'est vraiment un lieu, d'abord c'est un lieu de vie, c'est un lieu de tristesse évidemment, mais c'est surtout un lieu de vie. Et voilà, un lieu d'ambivalence aussi, en fait. Voilà. Après, l'écriture est arrivée, et non, c'est d'abord la photo qui est arrivée naturellement. Alors, je continue à parler des morts en sachant que c'est quelque chose qui n'est pas anodin et que par rapport à cette écoute, ça peut être difficile en tout cas. Bon, mais puisqu'il s'agit de ce livre, en tout cas la première photo que j'ai eu besoin de prendre avec l'autorisation bien sûr de la soignante, c'était en ouvrant une caisse, un frigo en fait. Une petite fille était là. Et en fait, sur son bras était figé un frisson, en fait. Donc voilà, elle frissonnait. Et ça, c'était comme pour moi la chose la plus simple que j'avais à dire sur la mort. Il fait froid, c'est froid, on a froid. Et voilà, cette petite fille qui a 7 ans m'a ouvert une porte d'une banalité effarante. Et finalement, il n'y avait rien de plus à dire à ce moment-là. Et j'ai fait cette photo de ce bras. Et puis, c'est un accompagnement qui était un très bel accompagnement. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Frisson. Voilà. Donc l'aventure a commencé avec cette fillette, l'aventure de l'écriture. Bon, après évidemment il y a eu d'autres histoires, d'autres nécessités en fait. Attendez, parce que je cherche en même temps sur le livre que Gérald me tend la photo en question. Voilà, c'est D'accord. celle-ci en fait. Oui. Voilà, c'est celle-ci et l'œil qui est sur la couverture, c'est aussi. Cette petite fille.
Alors justement, ce regard sur la mort, cet escamotage de la mort, le rôle de ces photos et en dialogue avec le texte, et pourquoi des photos en fait ?
Alors,
si je le précise, non,
ça c'est
non,
super.
Ne sont pas voyeuristes
comme question.
Mais elle ne dégage. On n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas dans. Je sais pas. C'est dur de se faire une idée sur ces photos, en fait.
Non, mais enfin, peut-être une question plus générale, c'est comment cette œuvre est-elle structurée. Donc c'est un livre. Oui. Je crois qu'il est bien édité. On peut le trouver dans le commerce.
Photos, oui, oui, ça, bien sûr.
Il y a
oui.
d'autres photos. En...
Et il est fait alors, à l'intérieur, donc voilà, il y a du texte et des photos en regard aussi. Parfois.
Ou, bon, alors seulement. Du coup, tout doit dans la chambre mortuaire, en fait, tout doit être accompagné. Tout doit être accompagné, tout doit être habillé, tout doit être délicat, en fait, pour que les choses soient supportables. Ce livre, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, je m'étais imposé de... Alors, c'est pas très vendeur pour le livre, ce que je m'étais imposé, mais en tout cas, de faire une couverture qui soit gênante. C'est-à-dire qu'on rentre pas sans effort à la chambre mortuaire, finalement. Il faut y aller de toute façon, et la première étape, c'est de braver un certain nombre de craintes et un certain nombre de choses. Donc, cette couverture-là, elle a un côté quand même qui est un peu dur. Donc, il s'agit d'un œil entrouvert. Hein. Mais elle est sans ambiguïté.
Voilà. Au moins.
Voilà. Ensuite, là où j'apporte un peu de douceur avec des photos, donc on commence par un certain nombre de photos où je lance des vêtements en l'air et je prends en photo. Donc les vêtements, bizarrement, peuvent prendre des formes comme un carnet, en fait. Certains, un perfecto fait coucou, un pullover plane, bref, il y a un certain nombre, un blouson de pêche se retourne avec la capuche comme si une tête nous regardait encore. Donc ils sont désincarnés mais encore animés. Et c'est un peu ce que je trouvais à la chambre mortuaire, en fait, c'est des gens qui étaient désincarnés, le corps était figé dans un espèce de redoutable élan de mort, quoi. Mais ils étaient encore animés, c'est-à-dire qu'il y avait encore quelque chose à faire, puisque des vivants allaient vers eux, et il allait falloir, en tout cas, rentrer en dialogue avec le mort. Ça peut paraître très bizarre de parler de ça, mais en tout cas, rentrer en dialogue avec ce mort pour le présenter au plus juste aux familles des vivants, en fait. Donc, il y a une approche qui est très particulière avec les morts quand on travaille à la chambre mortuaire. Il faut les regarder, il faut les toucher, et il faut y aller pour.
On est au cœur de la culture humaine au sens propre.
On est au cœur, alors voilà.
Hein, je crois.
Bah, dans
en
cette
fait,
zone,
avec cette histoire de relation des vivants aux morts.
Ben, de toute façon, la relation des vivants aux morts est essentielle dans l'humanité, puisqu'on dit qu'on inhume ses morts, donc c'est être à l'humanité que d'inhumer ses propres morts. Donc là, évidemment qu'on est au cœur de cette problématique.
Le cimetière des éléphants aussi, paraît-il. Bon, c'est un autre sujet, quoique on ne sait plus quelles sont les spécificités vraiment humaines avec toutes les découvertes qu'on fait en éthologie et en paléontologie.
C'est vrai. Donc voilà. En tout cas, à la chambre, il y a ce temps de soin. Après, le texte parle de ces morts qui ont été fondateurs pour moi dans une logique de vie, et surtout du travail d'une soignante qui est extrêmement précieux dans notre société, et cette soignante est escamotée et invisible, mmh. et a aussi une difficulté d'être dans la société au jour comme ça, parce qu'elle fait un métier qui la rend de toute façon marginale. Donc voilà, donc ce livre est là, était là pour parler de ça. Voilà. Ensuite, alors, bon, il y a la troisième partie des photos qui est des photos de détails de gens morts, mais parce que ces photos-là racontent quelque chose, en fait. Donc, j'ai choisi à un moment donné aussi, certaines photos sont l'absence de la photo avec simplement une ligne de texte ou trois lignes de texte, mais cette ligne de texte est comme une photo. C'est-à-dire que normalement, on lit ce texte et on a une image. Par exemple, l'artère est blanche. C'est une photo pour moi, donc il y a pas d'image, mais en fait il y a un texte que je juge photographique. Voilà. Après il y avait un abécédaire aussi, des mots de la soignante en chambre mortuaire. Oui. Je crois que c'est tout en fait.
Ouais. Quelle date d'édition pour ce livre, et puis surtout c'est à quand remonte ce séjour avec cette
mars 2010
pour l'édition du livre, donc il y a 4 ans en fait, et donc j'ai dû commencer cette affaire il y a 6 ans et la terminer il y a 4 ans. Voilà.
Moi, j'ai trouvé ça intéressant, cette idée qu'au début, il n'y avait pas la volonté forcément de faire quelque chose, que ce
Jamais.
Soit des photographies ou l'écriture d'un livre. Il y
non.
avait une sorte de geste gratuit au départ, et puis finalement ensuite un intérêt trouvé pour la chose, et une dimension artistique, enfin je ne sais pas comment dire cela, ou alors peut-être votre démarche serait-elle sociologique un petit peu, cette envie d'étudier la marge, d'étudier, enfin je dis étudier, après je ne sais pas non plus quel terme.
Non, vivre, ouais, il s'agit vraiment d'avoir les pieds dans cette marge-là, et il s'avère que le langage qui est celui de l'écriture et de la voix, finalement c'est un bon moyen de communiquer. Bon, alors là, La dernière chambre, donc, qui est le seul livre, en tout cas abouti, que j'ai écrit, m'a ouvert les yeux sur une chose. C'est-à-dire, j'ai toujours écrit, comme plein de gens, des textes en disant, de toute façon, moi j'écris pour ne pas être lu, j'écris pour moi, pour mon propre plaisir, bon bref. Et il s'avère, comme d'habitude, c'est pour ça que je cite, voilà, c'est la rencontre avec des gens qui ont déjà réfléchi avant moi et que j'entends par hasard parler. Et là, je dois dire qu'il y a c'est quelque chose dont j'ai entendu parler Marguerite Duras, en fait, ni plus ni moins qu'elle, qui trouvait scandaleux en fait que des gens puissent dire qu'ils écrivent pour personne. Et en effet, elle disait non, on écrit toujours pour quelqu'un. C'est insensé de dire qu'on écrit pour personne. Alors évidemment, moi, crânement, je disais bah si, il y a moi, mais non, en fait, non. Et c'est écrit là que j'ai eu pour ce livre, c'est la première fois que j'ai eu conscience que je l'ai écrit pour quelqu'un. Je l'ai écrit pour les morts, ça peut sembler bizarre, donc des gens qui n'entendront ni ne verront rien, et surtout pour la soignante de la chambre mortuaire. Donc ce livre est écrit pour quelqu'un. Après, toutes les choses que j'ai écrites sont écrites pour des gens, mais qui sont une zone de lectorat en marge. Donc en effet, quand je navigue, puisque je navigue beaucoup sur des terrains de Rome avec les gitans, là en effet je suis allée au Chiapas, donc voilà, ou avec beaucoup des gens qui se retrouvent en marge par rapport à la folie, j'écris pour eux. Donc, alors effectivement, j'écris pour eux, j'écris pour un lectorat qui est particulier, qui ne lit pas. Mmh. Alors, ce livre qui est La dernière chambre, en effet, s'est retrouvé silencieux. Silencieux, c'est comme c'est un livre, donc c'est silencieux, il fait pas de bruit. Et à un moment donné, il m'a semblé important de faire un peu plus de bruit. Donc c'est vrai que maintenant, je fais des choses toujours écrites, et j'ai plutôt envie de les dire, donc je les dis souvent accompagné de photos et de musique. Voilà.
Musique, magnifique. Catherine Ringer, il est temps de faire une pause, parce que Laurence a beaucoup parlé, et puis écriture, moi j'aimerais, enfin du moins, est-ce que cela sera intéressant d'évoquer le blog peut-être, Laurence, je n'ai plus l'adresse sous les yeux, loutre-barbier je crois.
Je crois que c'est loutrebarbier.wordpress.com.
Parce qu'il y a un lieu ubique qui est indiqué, il y a différentes choses, donc ça peut faire un autre temps de parole dans quelques instants. Nous écoutons de Catherine Ringer, c'est Punk, c'est ça je crois,
Punk 103, qui est le crachat d'un arc-en-ciel, et j'aime bien ce morceau.
Oh, 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 c'est le bleu qui me coule par les...
les yeux, ouais, c'est le bleu. Ah, ah, le bleu, mais ça me saoule, ça me fout les boules. Ah, le bleu n'aime personne, non, le bleu n'en aime personne. Il s'en fout et il cogne quand il se fout en rogne. Non, c'est le rouge, c'est du rouge qui déborde par sa bouche pleine de dents. Ah, c'est le rouge plein de sang, le rouge n'aime personne, non, le rouge n'aime personne. Il s'en fout et cogne quand il se fout en rogne.
C'est le rouge.
C'est du jaune, hein. Tout dit qu'il soit d'or pur, comme la saleté de monnaie. Car le jaune n'aime personne. Non, le jaune n'aime personne. Il s'en fout et il cogne quand il se fout en rogne.
Ouais.
C'est vrai que le vert aussi, le vert, c'est vraiment crade. Seigneur, mais lui sert, c'est du vert, de vert de terre. Ah. Hey, le vert n'aime personne d'ailleurs non plus, le vert n'aime personne, il s'en fout et il cogne quand il se fout en rogne.
Mais le vert.
Allez, nous dit Catherine Ringer, allez. Allez, tout le monde là, Gérald, Laurence et Jean-Pierre ainsi qu'Emmanuel, allez. Eh ben, allez quoi, donc nous changeons de sujet après avoir longuement évoqué cette dernière chambre publiée donc aux éditions Phage. Est-ce un acronyme Phage d'ailleurs? Est-ce que c'est un
non,
sens particulier?
Non, c'est le nom de Gilles Phage, on est trois éditeurs à Phage Édition, donc Gilles Phage, la clé de voûte, Philippe Grand et moi-même, voilà.
Donc après avoir longuement évoqué cette dernière chambre dont, eh ben, je dirai quelques mots sur le blog, puisque l'émission spectaculaire, comme toutes les émissions de Radio Canut, a un blog sur lequel se trouvent maintes choses. On peut même nous écrire des commentaires, on nous a d'ailleurs signalé salut Charlotte, je me permets cette familiarité, on nous a signalé que nous avons bien fait de diffuser la semaine dernière Pégase, parce que c'était une belle chanson et un bel album, et ben tant mieux, nous continuons à diffuser différentes choses. Et donc après avoir longuement évoqué cette dernière chambre dont j'indiquerai différentes choses sur le blog, Eh bien, Laurence, maintenant, est toute disposée à évoquer, tout disposée, je sais jamais comment marche,
si, d'accord. Je suis toute disposée.
Toute disposée à parler de personnes en marge, à la fois en France et puis dans le monde, plus particulièrement vers l'Amérique du Sud, c'est ça ou,
ah oui,
ou
oui, pas si, tout c'est bien. Oui, non, peu importe l'ordre, peu finalement, importe. Toutes les personnes en marge, il n'y a pas d'ordre. Donc, je sais pas, on peut parler des personnes en marge dont j'ai évoqué tout à l'heure l'existence et puis qui est une préoccupation pour moi en ce moment, qui est la condition des Roms de Roumanie essentiellement, puisque il s'agit d'eux qu'on trouve à Lyon. Et voilà, donc où il y a en effet une espèce de choc entre ce que j'entends au niveau des politiques et puis ce que je vois du fonctionnement, un véritable problème avec tout ça. Mais voilà, bon, donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un peu listé les choses étranges de nos politiques, en fait. Par exemple, 10 hommes, 10 Roms, c'est encore 10 de trop. C'était Guy Tessier, maire du MP des 9e et 10e arrondissements de Paris. Quand les Roms s'installent, on a une recrudescence des cambriolages. Bon, c'est peut-être une réalité, mais je sais pas. Samia Ghali, sénateur maire du PS des 15e, 16e à Marseille. Vous avez quelques soucis, paraît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et disons odorante. Bref, ceci n'est que le petit morceau de l'iceberg, Jean-Marie Le Pen. Les Roms ne souhaitent pas s'intégrer pour des raisons culturelles ou parce qu'ils sont entre les mains de réseaux versés dans la mendicité ou la prostitution. Manuel Valls, enfin bon, je vais peut-être pas vous les citer parce qu'en fait, quand on les lit tous, on est assez étonné de tout ça et on prend peur. Après, on peut terminer par et à propos des voyageurs au sens large, ce qui inclut aussi les gitans qui sont bien français. Hitler n'en a peut-être pas tué assez, ça c'est Gilles Bourdoulex, c'est récent, député ça. Maire de Cholet. Quelque voilà. Moment. Donc, donc c'est vrai que la rencontre, moi, avec
terrifiante.
Une banalisation qui est assez terrifiante, en fait. Et voilà, après une dizaine ou une douzaine d'années avec les Roms de l'agglomération lyonnaise, et puis bah, où je suis, il s'avère que je suis allée en Roumanie aussi, il m'a semblé important. En tout cas, voilà, j'ai écrit aussi des choses. Donc, mais finalement, pour eux, une image que je leur renvoyais, mais qui m'est arrivée de lire, donc je peux peut-être lire un petit morceau ici. Au pied d'un mur à pognon, assise sur un carton, la fille en fer, dent en or, mendie. Demande l'argent beaucoup pour en avoir un peu. Accepte le pain. Donne le pain aux pigeons. Flotte sur un tapis emplumé et pommelé. Regarde un chien dans les yeux, elle n'est pas seule. Rescapée d'un quelconque désastre, elle est en équilibre, par terre, sans rien faire d'autre qu'être. Elle a quitté le monde, elle est au-dessus, elle mendie. La mendicité est interdite. Veuillez vous lever. Trois seulement des quatre petits oiseaux qui picorent au milieu de la route fuient devant les roues de la voiture. Mais un petit oiseau, vif et agile, trouve toujours le moyen de s'échapper. La mendicité est interdite. Veuillez vous lever. Zurali, Ralina, Margina, Garofita, Felicia. Avalé par une bouche de métro. Rire. Rage. La fille en fer a mal aux dents. Rage accrue, douleur féroce. La fille en or. Cale le bris d'un miroir, se campe devant, interrompt le souffle. Ouvre grand la bouche. Et avec le briquet, le briquet de son père tire la dent pourrie, déchire sa gencive. Bourreau baveux, il bascule, tire une fois encore la salope chavirée, arrache partie du rhizome à sa chair vivante. Le briquet hurle dans sa main, sang ouvert. La fille perd sa bouche dans la séquelle du miroir, le feu dans son crâne pourrait creuser une congère. Elle ravale des larmes brûlantes, larmes, sueur, salive et sang. Le goût du sang dans la bouche. Autour de ses yeux, grands ouverts, des étoiles carmin. Ça va maintenant, non, problème il n'y a pas. Pas de carte vitale ? Pas de carte vitale. Zurali, Ralina, Margina, Garofita, Felicia. De sang et de feu, disent que la vie ça ne change pas, ça continue à rester comme ça et que c'est le regard sur la vie qui change. Disent qu'elle rigole, mais que c'est grave dans le cœur. Que le cœur est fou, même très fou. Il peut être noir quand la figure est contente. Disent. La fille en or a 18 ans. Elle s'appelle Margina, elle habite un terrain squatté dans une baraque en contreplaqué. Après la manche, elle retourne au terrain qui recycle nos déchets urbains. Elle met ses trésors sous son lit, c'est un lit de fortune. Elle mange des pommes de terre et des gâteaux secs, décalote les pompes à incendie. Faut bien qu'elle boive aussi. En France, elle n'est pas timide pour mendier. Elle peut dire qu'elle n'a pas de papier pour travailler. En Roumanie, elle n'a pas de travail parce qu'elle est comme elle. Elle ne peut rien dire de plus. Alors pour elle, terre d'exil française, terre d'origine roumaine, maintenant elle a des copines ici et là-bas, cousins et cousines, ici et là-bas, témoins de Jéhovah, ici et là-bas, assistante sociale, médecin du monde, ici. La rue a la perspective d'une impasse, mais aujourd'hui ça va, elle est en France, elle a gagné 5 euros et sa mère aussi. La fille en fait en or, elle n'a pas peur des serpents ni des vampires. Ce qu'elle redoute, vous savez, c'est le demain. Ce demain-là, la fille en or le connaît bien, elle a vécu 10 fois déjà. Demain, il y aura l'expulsion du squat. Demain, il y aura la police, la peur, et comme unique remède, un retour en Roumanie, sans rien emporter d'autre qu'âme qui vide. Pour elle, le demain magique serait le jour des papiers, de la carte vitale, d'une formation, mais surtout, surtout du droit à habiter. Du droit à habiter. À travailler. Ce demain-là n'est jamais aujourd'hui, mais toujours demain. Demain, pour les Roms, c'est un opiacé. Demain, c'est un pharaon. Un automate. Demain, c'est une déferlante, un sablier, une fontaine, c'est un quartz, un piranha, un phare, un principe général. C'est une vertu béante, une force miaulante. Mais demain, Margina sera là.
Oui. Est-il... Est-ce qu'il n'y a peut-être pas de commentaire, si ce n'est faire écouter...
Si, il y a un commentaire, en fait.
Faire écouter circulation.
Un commentaire, parce que là, on est combien ? On est 4, 5. C'est vachement bien d'être à Radio Canu. Et plus que jamais, il nous faut militer pour le droit au territoire du rêve et à la libre errance. Voilà. Et à la non-conformité. Et aussi, il nous faut rire. Alors là, je ne vous ai pas fait rire, mais parce que le rire, c'est un peu un bouclier invincible et qu'il appartient à la tradition des insoumis. Et là, après, je veux bien qu'on parle de Marcos et des apatistes, mais je pense que c'est important d'être concerné et puis de se dire qu'on peut agir sur des choses, mais peut-être... Alors avec ce que les Mexicains appellent les apatistes, le mauvais gouvernement, peut-être que c'est difficile de trouver des alliés dans le gouvernement tel qu'il est en présence en ce moment, et que voilà, on n'a qu'à.
Oui, moi je pensais à, non pas des commentaires avec des mots, mais disons ce titre, Circulation dangereuse.
Ah oui,
je me disais
alors,
que ça pouvait faire...
C'est exactement ça. Donc Circulation dangereuse est issue en fait d'un groupe qui s'appelle Banco. Donc Gérard Torres, qui est lyonnais, qui aussi est présent dans les prises de parole que je peux faire, et voilà, au niveau de la musique. Et Ali Boulo Santo, qui lui est d'origine sénégalaise, et ouais, c'est un morceau qui est emblématique. J'aime bien ce morceau par rapport à plein de choses. Donc ouais, entendons-le.
Je veux mon pays. marcher. Je veux voyager. Je veux voler. Comme ton papillon, Manuela, liberté, circulation, dangereuse. Manuela, égalité, circulation, dangereuse. Manuela, fatalité, circulation, dangereuse. Manuela, mon papillon, circulation, dangereuse.
Ah, un petit peu d'ambiance à la toute fin de ce morceau. Laurence, il s'agissait de Circulation dangereuse de Banco. Et
oui, c'est ça.
Quelques mots.
Juste dire qu'en effet, c'est toujours difficile de circuler, qu'on n'a pas évoqué, rien évoqué du tout, mais en tout cas par rapport à la migration des Roms, cette migration pendulaire, cette façon de dire qu'il était très difficile de se déplacer à cause des frontières et voilà, mais que même nous on était quand même souvent contraints et obéissants et c'était très bien, mais qu'on se sentait souvent en manque de liberté. Et puis alors bon, on va pas parler du Chiapas ni des 20 ans d'insurrection des zapatistes, mais simplement, je vais terminer encore par une citation du commandant insurgé Marcos. J'aurais pu citer d'autres parce qu'il y a Marcos, Moïse, d'autres qui ont écrit et qui font passer des messages, et il faudrait qu'on regarde par notre petite lorgnette ce qui se passe là-bas aussi. Et ouais. Disant que la liberté, c'était comme l'aube. Certains l'attendent dans leur sommeil quand d'autres veillent et cheminent pour l'atteindre, cette liberté. Ce sont les insomniaques dont toute histoire a besoin, dit-il. Et en effet, dire pour atteindre cette liberté, je pense qu'il ne faut plus attendre de choses de ce qui se passe là, en fait, et qu'il faut aller chercher un peu nos libertés à nous, en fait, et aller sur les terrains où on peut être accueilli dans cette liberté-là. Bon, voilà.
Bon, allô, c'est Jean-Pierre. Moi, ce qui m'a relié à Laurence, c'est aussi une histoire de mort. C'est le livre des morts tibétains qui parle d'une liberté suprême, c'est-à-dire d'une mort dont on ne revient plus, contrairement à la plupart des morts où, pour moi, on se réincarne et dont j'en ai eu la preuve. Et voilà, quoi, ce qui m'a fasciné en Laurent, c'est le Nirvana et le livre des morts tibétains. Voilà, merci.
Okay. Une fin d'émission en happening, et écoutons même. Ça, je crois que c'est Emmanuel qui peut le commenter. Emmanuel, de quoi s'agit-il ?
Alors bonjour à tous déjà, parce que je me suis pas présenté en arrivant. Moi j'étais hier soir, c'est pas vraiment une liberté, mais j'étais à l'opéra hier soir voir le Contori qui est représenté en ce moment à l'opéra de Lyon. Un joli opéra, comme le disent eux-mêmes les musiciens, qui a été composé en 1828 par Rossini. Il est question de liberté, aussi d'inversion de certaines règles, liberté qu'on aimerait prendre, qu'on n'arrive pas toujours à prendre. Ça joue sur un autre terrain, cette fois-ci, c'est plus sur le terrain de la vie sexuelle, de l'érotisme, pour faire vite. L'intrigue, elle est ténue, elle ne tient pas à grand-chose, c'est des hommes qui partent en croisade, des chevaliers qui partent en croisade et qui laissent leur femme toute seule. Le Contori est là et il aimerait bien en profiter. Il va se travestir de différentes manières pour tenter de séduire comme il peut, parce que c'est un don juan à la petite semaine, ces femmes qui sont là. Donc toute l'histoire, elle est là. Elle est entre ces hommes qui sont pas vraiment maîtres de leurs pulsions, notamment le Contori, et ces femmes qui ont des difficultés à calmer leur libido. On peut dire que du coup, le terrain, c'est un terrain idéal pour... comment dire, c'est un peu l'île de la tentation à l'opéra, mais c'est surtout l'île de la tentation pour le metteur en scène, parce que la tentation, c'est d'en faire de la caricature et d'en jouer beaucoup. Donc on se retrouve assez souvent avec pas mal de caricatures qu'on a déjà vues plusieurs reprises. Là, on est dans les studios de Radio Canut, il y a des caricatures qui nous entourent, notamment celle de Cabu.
Et GB.
Et de GB, et notamment une des caricatures les plus connues de Cabu, ce sont celles avec des bonnes sœurs qui ressemblent
à des trahis très masculins.
Et ben là, on se retrouve face à un chœur de nonnes qui sont jouées par des hommes qui se laissent aller à l'ivresse ensemble, par exemple. On retrouve aussi les situations avec toute cette histoire de libido tirés de chez Tex Avery qui sont extrêmement, extrêmement drôles. Donc du coup, c'est un opéra qui est très, très amusant. Une belle mise en scène. Et un opéra qui est plutôt, plutôt joyeux, plutôt, plutôt léger.
On le laisse s'enfiler, Manuel, une liaison, une relation avec ce que tu avais vu précédemment, le dialogue des Carmélites en octobre dernier. Est-ce que, non, là, l'atmosphère était quand même beaucoup moins érotique. Quoique si Blanche de la Force, est-ce qu'il y avait quand même une dimension un peu, enfin, je ne sais pas comment. Oui, non, de la sensualité dans les Carmélites, non, il n'y a rien à voir.
Non, pas grand-chose à voir, si ce n'est finalement peut-être, alors c'est là que c'est intéressant, finalement un opéra, une mise en scène qui est quand même très, très actuelle, et donc qui nous ramène en fait avec l'opéra, qui ramène l'opéra avec son temps. Là on retrouve un autre thème, peut-être plus sur la fin finalement, avec une fin qui nous laisse un petit peu en hésitation, puisque c'est le retour en fait des hommes qui étaient partis en croisade et qui rétablissent l'ordre. Alors l'ordre il est rétabli à la fois par le sabre et le goupillon, c'est-à-dire les militaires qui reviennent avec le prêtre dans leur soute, ces hommes qui viennent siffler la fin de la récré, donc la fin de l'opéra d'une certaine manière, mais aussi qu'on sent là le début des ennuis, puisque derrière les hommes arrivent des poussettes qu'on pense avoir croisées pendant les manifs pour tous. Donc dernier pied de nez, et puis voilà, ça laisse un petit peu la place aux spectateurs pour toutes les interprétations possibles. Voilà.
Et alors joli, le mot joli du début, ça voulait dire quoi, joli?
Joli, c'est plutôt léger, c'est-à-dire que c'est d'accord. Un opéra sans prétention, quoi.
Une bonne comédie de mœurs.
Ouais. Qui se voulait comme tel, quoi. Voilà. Mm-hmm. Un opéra populaire qui est pour le coup, avec la mise en scène aussi, plutôt accessible à tous. Voilà.
C'est encore donné les samedis 1er mars à 20h, lundi 3 mars à 20h aussi, et le mercredi 5 mars à 20h toujours. Et j'oublie même le jeudi 27 février, à savoir demain. Donc si vous souhaitez, comme ça, écouter cette musique que je mets en fond, et puis si vous souhaitez voir à quel point les propos d'Emmanuel étaient pertinents et étaient bien en rapport avec tout cet opéra, eh bien allez donc voir cet opéra. Rendez-vous sur le site aussi pour avoir un aperçu peut-être. Je crains que la fin d'émission soit toute proche. Brad Meldo est lundi 2 mars prochain. Il est à l'auditorium. Écoutons donc une petite piste de Brad Meldo, une sorte de blind test. De quelle reprise s'agit-il, puisque Brad Meldo pratique beaucoup la reprise? Allez-vous reconnaître? Ah mince, je crains que ce soit ma faute. Comme j'ai sifflé plus ou moins la fin de la récré, ben tout le monde se tire. Bon, ben mettons le générique de fin d'émission alors. Eh bien, c'est un nouveau générique, c'est un autre titre de Massive Attack. L'émission se termine, tout le monde s'en va. Au revoir tout le monde. Ça se termine un peu rapide. Pascal est déjà sur la place, déjà dans la place pour présenter le blues des Canuts qui commence à 15h. Oh ciel, aurions-nous du retard. Nous nous retrouvons non pas le mercredi 4 mars, je crois que l'émission fera relâche, pas non plus le 11 mars, on se retrouvera bien plus tard, on se retrouvera peut-être je crois le mercredi 17 mars avec Damien Pousset pour nous parler de cette biennale Musiques en scène à Lyon. Au revoir Laurence. Au revoir Gérald, au revoir Jean-Pierre, et restez à l'écoute des programmes de Radio Canu ainsi que des bandes continues et du blues des Canus. Voilà, je crois avoir tout indiqué. Bonne semaine, bonne journée et à très bientôt. Salut!